Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au Centre Sèvres. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir et puis je vous félicite d'être venu. Vous ne savez pas si vous allez repartir ce soir à pied, à cheval ou en métro. Donc bravo aux courageux. Et puis nous sommes surtout très heureux de cette soirée qui est organisée avec les éditions du Seuil autour du livre de Daniel Marguerat, Vie et destin, Jésus de Nazareth, et plus qu'autour du livre, puisque nous avons la joie d'accueillir Daniel Marguerat parmi nous ce soir. Alors je vous présente nos invités. Tout d'abord l'auteur, Daniel Marguerat, qui est professeur honoraire à l'Université de Lausanne, où Daniel, vous avez enseigné pendant de nombreuses années l'exégèse du Nouveau Testament. Alors je ne lirai pas la liste de vos publications, sinon on y passera presque la soirée, mais j'y ai noté vraiment sans peine le goût de la recherche érudite, comme dans le long et riche commentaire des Actes des Apôtres, hein, sur lequel vous dites avoir passé sans doute 21 ans d'études, peut-être plus. Mais vous avez non moins du goût à rédiger des ouvrages destinés à un plus grand public, ce qui est loin d'être moins exigeant. Et je pense en particulier à Résurrection, une histoire de vie par exemple. Et celles et ceux qui ont eu la joie de suivre vos enseignements savent avec quelle précision, quelle clarté vous travaillez et aussi avec quel enthousiasme vous êtes un serviteur de la parole. Alors pour dialoguer avec vous ce soir et faire écho de leur lecture, avant d'introduire un échange avec vous, je suis également heureux d'accueillir Madame Élodie Moreau, qui est journaliste au service culture du journal La Croix. Et j'allais dire, Élodie est tout aussi une lectrice passionnée, animée par le souci de comprendre et de nourrir la quête spirituelle de nos contemporains. Et je suis également très heureux de vous présenter Madame Odile Flichy, qui est professeure d'exégèse du Nouveau Testament au Centre Sèvres, auteure de nombreuses études sur Paul et Saint-Luc, et lectrice assidue également de Daniel Marguerat depuis de nombreuses années. Alors je suis, comme vous, impatient de vous entendre les uns et les autres nous partager vos découvertes sur la vie et le destin de Jésus de Nazareth. Odile, je vous donne la parole.
Merci, Patrick. Alors, il me revient de commencer par une présentation générale, brève, de cet ouvrage que beaucoup d'entre vous ont déjà lu, à en croire la rumeur, on va dire, ou la renommée, qui, telle celle du Jésus dont il parle, se répand dans les régions respectives, dans nos régions respectives depuis sa parution. As-tu lu le Jésus de Daniel Marguerat? Un livre remarquable, à lire absolument, entend-on. Ou bien, ah oui, vraiment très intéressant. Mais sinon, quand même, il me pose quelques questions. Donc, très intéressant, effectivement, que ce projet de dresser un portrait du Jésus de l'histoire, et en reprenant l'objectif de ce livre, un portrait de Jésus à la lumière de nouvelles découvertes archéologiques, de l'étude des textes chrétiens, extra-canoniques et des historiens juifs anciens, en conduisant une enquête à la manière de l'historien, fondée sur l'analyse rigoureuse des sources et motivée par les questions que l'on se pose aujourd'hui sur Jésus, le tout du point de vue d'un croyant théologien chrétien, convaincu, je cite, que le travail historien n'asphyxie pas la croyance, il participe à son intelligence et à sa structuration. Le savoir historique a toujours été l'antidote intellectuel des fondamentalistes. Fin de citation. Enfin, le tout pour conférer de l'épaisseur à l'humanité du Nazaréen et revisiter la mémoire des origines afin d'aider le lecteur à mieux comprendre, et je cite encore, pourquoi la figure de Jésus de Nazareth continue à fasciner l'humanité, croyante ou non. Alors oui, vraiment, c'est un parcours original, ambitieux et tout à fait passionnant auquel nous convie ce livre. Nous partons des commencements, c'est-à-dire des premières traces laissées dans l'histoire sur l'origine, la vie et le destin de Jésus de Nazareth. Vous nous en offrez une riche documentation qui ne manquera pas de captiver le lecteur tout en nous mettant en garde au niveau des conclusions à en tirer, puisque cette abondance documentaire, dites-vous, ne laisse aucune chance à la théorie mythiste du Jésus imaginaire, mais impose le deuil de la biographie de Jésus. Cependant, à la question « Jésus a-t-il existé ?», vous répondez clairement « Sur aucun personnage de l'Antiquité, nous ne sommes si tôt et si abondamment renseignés que sur Jésus de Nazareth, à l'exception d'Alexandre le Grand. » Bon, alors, je passe sur toute cette documentation, nombreux papyri, manuscrits, etc., que vous reprenez, présentez de manière tout à fait exhaustive. Voilà. Mais la quête, enfin, vous nous montrez comment ce Jésus a été à la fois un homme de son temps, immergé dans le judaïsme palestinien des années 20-30, tout en s'avérant singulier et inimitable. Et la quête ne s'arrête pas là, puisque dans la dernière partie, intitulée « Jésus après Jésus », vous montrez comment, à partir de l'expérience inouïe que font ses disciples de l'avoir rencontré vivant, la croyance en sa résurrection a conduit à revisiter sa vie, ouvrant l'ère de la réception de la mémoire de Jésus dans la tradition chrétienne des premiers chrétiens, ainsi que dans les deux autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam. C'est donc un livre d'histoire que vous nous proposez, clairement structuré en trois grandes parties sur lesquelles nous allons revenir. Mais je dirais simplement, pour être pas trop longue, que, à mes yeux, ce livre rassemble de manière exemplaire, comme dans un bouquet, les trois grandes orientations de votre carrière universitaire au sein d'une faculté de théologie. On y retrouve le pasteur de l'Église réformée du canton de Vaud que vous avez été, convaincu dès le début de votre ministère, je cite, que l'exégèse ne devait pas simplement expliquer le texte, mais conduire à le comprendre, c'est-à-dire à discerner quelle conception de Dieu et de la condition humaine il porte au langage. Alors, c'est vrai que ce livre d'histoire, rien de vraiment étonnant que vous ayez fait un livre d'histoire, car votre intérêt pour le Jésus historique ne date pas d'aujourd'hui, mais on sait par ailleurs que vous êtes aussi incontestablement un maître dans l'art de la narratologie biblique, et je pense aux jolis contes théologiques que vous, des épisodes de la Bible que vous racontiez à vos filles quand elles étaient petites, publiés dans Le Musicien des Anges, et les nombreuses publications sur lesquelles je ne reviens pas. Mais il semble quand même que dans vos derniers ouvrages, l'historien chez vous tende à prendre le devant de la scène. Donc Patrick a cité l'historien de Dieu, Luc et les actes des apôtres, Jésus et Matthieu à la recherche du Jésus de l'histoire en 2016. Alors je me demande si c'est simplement une question de goût personnel ou bien si vous pensez qu'aujourd'hui, alors que la narratologie a trouvé sa juste place dans l'enseignement de l'exégèse, l'importance de l'histoire dans le travail d'intelligence de la foi des chrétiens ne serait pas toujours bien reconnue. Mais je crois qu'Élodie a une question à ce sujet aussi.
Oui, je complète la question d'Odile pour la prolonger. Elle pose la question de l'importance de l'histoire pour le travail d'intelligence de la foi aujourd'hui. Ma question, c'est pensez-vous aussi que l'approche historique à laquelle vous consacrez beaucoup d'attention au cours de vos derniers ouvrages est aujourd'hui une manière d'entrer en contact avec une société sécularisée, quelque peu immunisée à l'égard de la religion? L'approche historique de la foi constitue-t-elle pour vous l'espace privilégié d'une possible rencontre entre chrétiens et non-chrétiens? Et puis j'ai une autre question à vous poser sur le travail historique que vous avez mené, une question peut-être d'emblée plus personnelle. Odile a rappelé cette phrase importante qui ouvre les premiers chapitres de votre ouvrage. Vous dites « Le travail historique n'asphyxie pas la croyance, il participe à son intelligence et à sa structuration ». Alors évidemment, on a envie de vous demander si vous pouviez témoigner de cette fécondité du travail historique dans votre propre itinéraire croyant. Comment le travail historique a-t-il nourrit-il votre foi et sur quel point? Plus particulièrement, vous avez été interrogé, déplacé, mais peut-être aussi confirmé par ce travail sur l'histoire.
Alors Daniel, comme c'est une question à tiroir, je crois que vous avez le temps quand même d'y répondre, surtout que cette histoire, elle est au centre de tout votre travail.
Merci, bonsoir. Donc je vais essayer effectivement de répondre à la question à tiroir. Je suis convaincu que Si le christianisme ne vit pas de se confronter constamment à l'événement Jésus de Nazareth, si le christianisme ne vit pas de se réapproprier constamment l'événement de Jésus de Nazareth, il avance comme un bateau ivre. Le seul repère, la seule source que nous puissions imaginer, c'est l'événement Jésus de Nazareth. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc le christianisme vit de revenir sans cesse à cette source. Et il n'a cessé de revenir à cette source. Donc pour moi, effectivement, il est devenu important, après avoir longuement travaillé sur les origines du christianisme, de m'interroger les actes des apôtres, de m'interroger sur son fondement, le Jésus de l'histoire. Alors, il y a effectivement à cela plusieurs raisons. La première a été signalée par Odile Flichy, à savoir que de nouvelles découvertes en archéologie, en connaissance du judaïsme palestinien du 1er siècle, et en découverte et en exploration, en lecture des évangiles extra-canoniques, l'archéologie, notre connaissance, grâce notamment à Flavius Joseph, du judaïsme ancien et des écrits extra-canoniques, nous fait progresser, nous donne de nouvelles informations et nous fait poser de nouvelles questions. On va y revenir peut-être probablement tout à l'heure sur le Jésus de l'histoire. Et puis, pour dire les choses comme je les pense, si dans l'ère anglophone et dans l'ère germanophone et dans l'ère italophone, constamment de nouveaux livres venant des spécialistes de l'histoire du christianisme ancien ou de l'exégèse sont publiés sur Jésus de Nazareth, l'ère francophone connaît une déliquescence et une désertification qui me navre. Je veux dire que des ouvrages sont publiés sur Jésus de Nazareth. Ils proviennent de journalistes ou d'historiens non spécialistes du 1er siècle. Ce que je veux dire, c'est que il est absolument capital que des spécialistes de la période du 1er siècle puissent intervenir sur Jésus de l'histoire. Le dernier ouvrage, paru en français, est rédigé par un exégète francophone sur le Jésus de l'histoire, émane de Jacques Schlosser, un exégète catholique de la faculté de théologie catholique de Strasbourg. Il date de 20 ans. Et donc j'ai voulu, à l'intention et des croyants et du grand public, présenter les résultats de mes recherches sur Jésus de Nazareth, aux croyants et au grand public. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire, ça n'est pas une nouvelle, que le christianisme de début du XXIe siècle se découvre un peu fatigué, en quête d'une identité à regagner, mais qu'au fond, sa figure fondatrice intéresse de plus en plus. Tant les cinéastes que les historiens, que les littéraires, et je ne parle pas seulement du livre d'Amélie Nothomb, beaucoup de personnes, effectivement d'écrivains, de spécialistes, s'intéressent à la question du Jésus de l'histoire. Au fond, Jésus devient de plus en plus une figure qui appartient à tout le monde. On pouvait dire qu'il y a encore 30 ans, c'était essentiellement les hommes de l'intérieur et les femmes de l'intérieur, mais surtout les clercs qui écrivait et consacrait des monographies au Jésus de l'histoire. Maintenant, l'intérêt est très large. Du coup, Jésus devient un lieu de dialogue, un lieu de rencontre, un lieu d'interrogation réciproque, et il nous faut, je crois, saisir cette chance de pouvoir dialoguer de l'intérieur, de l'extérieur de l'Église sur la personne de Jésus. Quand je dis que la recherche historique n'asphyxie pas la croyance, je pense que ma foi est appelée à devenir une foi adulte et que de quitter une foi d'enfance qui vit de discours ressassés, de formules catéchétiques qui peu à peu perdent leur impact existentiel. Je vais donner l'exemple du livre sur la résurrection. J'ai écrit un petit livre sur la résurrection qui, il est de fait, a reçu un très très bon accueil. Et ce petit livre sur la résurrection, au fond, est parti du fait que, à mon avis, la foi chrétienne dans la résurrection perd totalement le terrain aujourd'hui face aux négateurs de tout après-mort ou bien face à la croyance en la réincarnation. Pourquoi ? Parce que la foi chrétienne dans la résurrection est dite à l'aide d'un vocabulaire rouillé. Un vocabulaire catéchétique, alors dans le mauvais sens du terme, c'est de la répétition. Et j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, on nous a toujours dit qu'il fallait croire à la résurrection, mais on ne nous a jamais dit pourquoi. Et j'ai tenté, au fond, de revenir au texte pour retrouver le noyau de cette croyance en la résurrection et le dire en des termes qui, aujourd'hui, fassent sens. Alors, pour Jésus de Nazareth, c'est la même chose. Il est de fait que les résultats de mon enquête historique peuvent modifier l'imagerie d'Épinal que chacun de nous porte en lui, mais peuvent effectivement modifier cette image, mais au profit, je crois, d'une compréhension et d'une perception plus forte, plus précise de l'incarnation de Jésus. Je veux dire, je crois fondamentalement, en tant que théologien, en tant que croyant, à l'incarnation. Mais il nous faut prendre au sérieux la foi en l'incarnation. Si Jésus n'est qu'une espèce de personnage nébuleux, Dieu ne s'incarne en rien qu'en un zombie. Or, Jésus n'est pas un zombie théologique. Jésus fut un homme de chair et de sang qui a tremblé, aimé, qui s'est enthousiasmé. Comment décrire cette façon dont cet homme-là, dans la totalité de son humanité, a pu dire Dieu d'une manière ultime. Mais ce fut un homme, complètement homme, qui a dit Dieu d'une manière ultime et irrépétable. Alors voilà, c'est au fond, au service, oui, de la foi en l'incarnation, que en tant que croyant, j'ai écrit ce livre.
Alors, après avoir ainsi rassemblé dans le premier chapitre de votre livre les données dont nous disposons pour savoir ce que l'on sait de Jésus, vous centrez votre recherche sur l'enfance de Jésus en posant d'emblée la question de son origine dans un chapitre intitulé « Un enfant sans père ?» point d'interrogation, au risque que la seule lecture du titre et des sous-titres des différents paragraphes de ce chapitre fassent sursauter plus d'un lecteur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ouvrez sans détour des dossiers pour le moins délicats, en montrant qu'au sein même du Nouveau Testament, on perçoit des traces de doutes et de soupçons autour de la naissance de Jésus. N'était-il pas un enfant illégitime né hors mariage d'un père inconnu, un mamzer, comme on dit dans le judaïsme, autant de rumeurs auxquelles les savantes compositions théologiques que vous citez comme ça, que sont les évangiles de l'enfance de Matthieu et de Luc, auraient tenté de répondre, rumeurs et hypothèses que vous éclairez en les resituant avec une grande précision dans le contexte de la société juive de l'époque, et en redonnant par-delà des siècles d'argumentation dogmatique, l'expression est de vous aussi, en redonnant la parole au texte évangélique lui-même pour se mettre à son écoute. Les résultats de votre enquête invitent à reconnaître que sur bien des points, nous voulons faire dire au texte plus qu'il n'en dit pour satisfaire nos propres questions au lieu d'accueillir son message. Ainsi, concernant la naissance virginale de Jésus, vous dites « cet enfant vient de Dieu ». Rien de plus, rien de moins. Ce qu'il leur importe de dire de la provenance de Jésus, de sa parole, de son autorité, c'est qu'elles échappent à l'initiative humaine, mais trouvent leur source dans l'inspiration divine. Quelle que soit la façon dont cet homme est né, il provient de Dieu. Voilà le message. Fin de citation. De même, nous ne savons pas où Jésus est né, sinon que ce ne fut pas à Nazareth. Et, en revanche, nous savons que ce ne fut pas en l'an 1. Quant à l'épineuse question des frères et sœurs de Jésus, qui a divisé la chrétienté dès le IIe siècle, vous montrez fort bien la nécessité de ne pas laisser la théologie du Fils unique du Père brouiller, je cite encore, la théologie du Fils unique du Père brouiller la généalogie de Yeshua de Nazareth. Personne n'y a songé avant que l'idée que Marie soit restée vierge ait fait surface au IIe siècle. Jésus avait au minimum 6 frères et sœurs de droit, sinon de sang. Voilà qui est aussi clair que convaincant, mais... Élodie.
Oui, sur la naissance de Jésus, votre enquête résume bien leur intention. Odile vient de citer cette phrase qui est très explicite. Cet enfant vient de Dieu, rien de plus, rien de moins. Du coup, on a envie de vous demander comment vous relisez l'extraordinaire développement théologique autour de la naissance virginale avec lequel l'Église catholique a comblé ce silence à travers les siècles. Par ce développement théologique, elle a voulu expliquer ou proposer une explication du comment de cette origine divine. On peut juger que s'exprime là une tentation illégitime de combler le vide des textes, autant sans doute qu'une focalisation sur les commencements qu'on pourrait mettre en lien avec un tabou sur la sexualité et sur son mépris. Mais peut-on aussi juger que l'Église a cherché, peut-être maladroitement, à articuler les textes évangéliques sur Jésus avec sa théologie du Verbe incarné et avec sa théologie de la Trinité? Votre position invite en fait avec prudence à une forme de déflation théologique et dogmatique, mais la question du « comment Jésus vient-il de Dieu » peut-elle rester béante?
Belle question, merci. Vous savez, ce chapitre 2 sur la naissance et l'enfance de Jésus est effectivement le chapitre qui me vaut les réactions les plus contrastées. Dans le monde catholique, j'en cite deux. D'un côté, deux couvents dominicains en Belgique m'ont dit « Nous souhaitons que vous veniez chez nous en 2020 animer deux sessions de réflexion théologique là-dessus. » J'ai dit « Ah bon, mon livre sur Jésus ?» Non, non, le chapitre 2, nous trouvons ça passionnant, c'est cela qui nous intéresse. D'un autre côté, j'entendais la réaction d'une personne qui dit « Faut pas lire le livre de Margueras, faut pas. » Non, parce que Margueras dit que Jésus est né du viol de Marie. En l'occurrence, la personne n'avait pas lu mon livre, visiblement, parce que ça n'est pas du tout ce que je dis. Alors, j'essaie de m'expliquer. Mon livre est effectivement un livre d'historien. Historien théologien, certes, mais on est historien plus quelque chose, toujours, hein. On peut être un historien athée, un historien matérialiste, que sais-je encore? Bien, moi je suis un historien théologien. Et ma question, effectivement, la question qui s'est posée, de savoir, au fond, que sait-on de la naissance de Jésus? Vous savez que la naissance de Jésus a reçu deux commentaires dans l'histoire. Le commentaire chrétien, l'affirmation théologique d'une naissance virginale. Et le commentaire juif, c'est la version soit du viol de Marie par un officier romain, Pantera, soit des amours illicites de Marie avec le même Pantera. Ce sont deux lectures interprétatives qui ont été proposées. La seconde, les nombreuses légendes juives avec différentes variantes, venaient contrer de manière polémique l'affirmation chrétienne de la naissance virginale. Une façon de dire, les chrétiens affirment que Jésus est venu du ciel en Marie, pas du tout, l'histoire est beaucoup plus scabreuse que cela, et nous allons vous la raconter. Bien. Ce sont deux lectures interprétatives, l'une et l'autre. La naissance virginale n'est pas une explication historique, c'est une lecture théologique, à laquelle j'adhère en tant que croyant. Ma question, elle est celle de l'historien. Qu'est-ce que les textes nous livrent de la naissance de Jésus? Eh bien, ils nous livrent un indice, un seul. C'est que la naissance de Jésus ne s'est pas faite dans une union légitime du point de vue de la Torah. Parce que Marie et Joseph n'étaient pas mariés. Ils étaient fiancés, et le droit conjugal, on le connaît, la Mishnah, la somme de l'érudition juive, le dit fort bien. La fiancée vit dans sa famille jusqu'au moment du mariage. Et au moment du mariage, elle va se rendre dans la maison de son mari et dès lors, leurs relations conjugales pourront commencer. Ce ne fut pas le cas de Marie et Joseph, les textes le disent. D'où l'étonnement d'ailleurs de Marie, « Je ne connais point d'homme ». Ça veut dire que la naissance de Jésus fut, du point de vue de la Torah, illégitime. C'est un constat historique. N'invente rien. Et ma question, toujours d'historien, a été celle-ci. Dans un milieu aussi contrôlé, aussi surveillé que l'était le judaïsme palestinien au 1er siècle, comment vivait-on en étant l'enfant d'une union illégitime? Ça se passait comment? Qu'est-ce qu'on disait de lui? Et je me suis demandé si les soupçons, soit disons globalement de l'adultère de Marie, si ces soupçons d'adultère qui émanent de légendes juives tardives, mais si ces soupçons n'étaient pas déjà énoncés du vivant de Jésus. Et il se trouve que, à ma grande surprise, en lisant le Nouveau Testament, mais si, on se rend compte que l'évangile de Marc, au chapitre 6, à propos, fait dire aux gens de Nazareth, Jésus, le fils de Marie. C'est tout à fait inconcevable que dans la société juive palestinienne, on est fils de son père. Pourquoi dire fils de Marie? Ça pourrait ne rester qu'une petite anecdote. Mais il y a d'autres choses. Dans l'évangile de Jean, je vous renvoie à mon livre pour les détails, mais dans l'évangile de Jean, les juifs disent à Jésus, nous ne connaissons pas ton père. Ou ils disent à un moment donné, nous ne sommes pas, nous, de la prostitution. En reliant ces trois éléments, l'hypothèse que je dresse en tant qu'historien, c'est que ces soupçons circulaient déjà du temps de Jésus. Ils circulaient déjà. Et que Jésus a dû affronter ce soupçon d'être un enfant mamzer, c'est-à-dire l'enfant de relations illégitimes. Et alors, j'ai essayé de relier cela à d'autres éléments. Et c'est vrai que d'autres éléments me semblent tout d'un coup prendre une signification particulière. Pourquoi Jésus n'était-il pas marié? Alors rassurez-vous, personne n'a la réponse. Aucun historien n'a la réponse. Et moi non plus. Mais c'est très étrange parce que les rabbis devaient être mariés pour illustrer par la présence de leur famille la fécondité de Dieu. Croissez et multipliez. Pourquoi Jésus ne fut-il pas marié? Quand on sait que l'enfant mamzer ne pouvait épouser qu'une fille mamzerette et que leurs enfants à leur tour seraient des mamzers, donc des marginaux religieusement parlant, on peut comprendre que le mariage d'un enfant avec la réputation mamzer n'est pas chose facile. Est-ce un hasard aussi que Jésus sait intéressé à toutes les catégories socialement et religieusement marginales dans la société juive palestinienne? Les malades, les collaborateurs de l'Empire romain, les femmes, les gens jugés impurs, toutes les catégories marginalisées, Jésus s'est rapproché d'eux avec une force théologique du Dieu de l'accueil et de l'accueil inconditionnel. Mais à partir de l'image de l'enfant mamzer, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en fait Jésus lui-même était un marginal, qu'il a vécu, lui, cette marginalité qu'il va venir combattre chez les autres à partir de son image et de son expérience de Dieu, d'un Dieu à l'accueil inclusif? Voyez, j'essaie de donner ces éclairages. On retient ou non cette hypothèse, mais il me semble qu'elle fait sens. Je vais terminer en disant que quelqu'un me disait, après avoir lu ce fameux chapitre 2, alors évidemment quand quelqu'un me dit, tu sais, j'ai lu le chapitre 2 de ton livre. Alors évidemment, je me demande tout de suite, ah oui, et alors? Réponse de cette personne, de cette lectrice, eh bien je trouve que pour moi, maintenant, l'incarnation de Jésus prend une épaisseur beaucoup plus forte. Alors oui, juste encore, la déflation théologique. Oui, Jésus, l'homme venu de Dieu, c'est l'affirmation de la foi par la croyance en la naissance virginale. Je me heurte à ce mystère. Je me heurte à ce mystère et je lui fais confiance.
Alors, dans le chapitre suivant, qui est intitulé « À l'école de Jean-Baptiste », vous rejoignez les analyses de John Paul Meyer en affirmant que la vie de Jésus a été fortement marquée par la fréquentation de Jean. Une évidence émerge pour vous. Jésus ne serait pas devenu ce qu'il a été sans la rencontre de Jean. Mais ces frappantes ressemblances ne cachent pas les points sur lesquels Jésus a rompu avec son mentor. Ses déplacements face au message de Jean s'enracinent dans une expérience de Dieu qui fut propre à Jésus. Alors pour vous, cette expérience spirituelle au désert avec Jean-Baptiste, enracinée dans le vécu baptismal de Jésus, fut si forte qu'elle généra chez l'homme de Nazareth une pratique d'exorcisme et de guérison à laquelle vous donnez la priorité pour entrer dans votre deuxième partie consacrée à la vie du Nazaréen. Et au fil des 6 chapitres qui composent cette deuxième partie, vous dessinez le portrait d'un Jésus après la figure familière du Jésus guérisseur. On découvre un Jésus poète du royaume, venu proclamer en parabole la venue du royaume de Dieu. Il se révèle poète, celui dont le propre est d'interpeller, de suggérer, d'évoquer. Et puis, maître de sagesse, donc un Jésus en qui cohabite une totale appartenance au judaïsme palestinien et une grande singularité dans les positions qu'il adopte, notamment concernant l'interprétation de la Torah. C'est la miséricorde de Dieu qui devient modèle de la sagesse de Jésus, dites-vous. Alors, si j'ai bien compris, c'est la figure du sage bien connue de l'Ancien Testament qui synthétise en quelque sorte la judéité de Jésus et la liberté avec laquelle, réinterprétant la loi à l'aune de l'impératif d'amour de Dieu et du prochain, il développe, comme vous dites, une éthique aux formules provocatrices. Mais voilà, ma question, est-ce que c'est ça qui caractérise les maîtres de sagesse de la Bible? Quel sens donnez-vous au terme de sagesse? Je ne sais pas si on a le temps, mais Elodie a aussi une question d'aborder ce sujet de Jésus, maître de sagesse. Alors oui, Elodie veut plutôt revenir sur la figure de Jésus guérisseur. Donc laissons le... Voilà, la sagesse, vous pouvez dire un petit mot?
D'accord. Donc j'accorde effectivement une très grande importance à l'expérience spirituelle de Jésus lors du baptême de Jean-Baptiste. Si l'on lit attentivement les textes des évangiles synoptiques et de Jean, on s'aperçoit que Jésus a fait partie du cercle des disciples du Baptiste, qu'il a baptisé au nom du Baptiste, une activité qu'il a abandonnée à partir du moment où il a rassemblé son propre groupe de disciples. Il y a donc énormément de points communs, d'analogies entre Jean le baptiseur et Jésus, au plus fort, je dirais, la perspective d'un règne de Dieu très proche, imminent, et dont l'imminence bouleverse l'ordre établi et appelle à prendre des mesures d'urgence. Il y a donc une consonance extrêmement forte entre le message du baptiseur et le message de Jésus. Vous ne lirez pas une ligne de critique dans les évangiles de la part de Jésus sur son maître Jean le baptiseur. Au contraire, il y a ici plus qu'un prophète, disait Jésus de lui. Alors, la sagesse, le maître de sagesse, Joseph Klausner, qui est un très très grand érudit juif du début du XXe siècle, Joseph Klausner, qui a publié en hébreu un Jésus de Nazareth, qui a été traduit, retenez la date, en 1933, en français. Et c'est un livre, c'est le premier érudit juif à se livrer à une étude historique de Jésus, hors de toute polémique. Il se livre à une étude historique de l'activité de Jésus, et ne cachant pas l'admiration qu'il a pour Jésus, en disant « Jésus fut un des plus grands juifs de l'histoire », dit-il. Presque aussi grand que Hillel. Hillel, qui est le grand sage pharisien, comme vous le savez, d'une dizaine d'années, aîné de Jésus. Mais, dit Joseph Klausner, là où Jésus a trébuché, emporté, dit-il, toujours Klausner, par ses chimères apocalyptiques, c'est qu'il a été radical dans son éthique. À savoir que, en lisant le serment sur la montagne, on s'aperçoit que Jésus énonce des impératifs sans aucune concession. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc il radicalise l'impératif d'amour et d'une manière, dit Klausner, insupportable, car Jésus quitte la modération qui est propre à la sagesse juive pour formuler la Torah en des termes excessifs. Et donc, pour Joseph Klausner, lisez ce livre, il est magnifique. Pour Joseph Klausner, Jésus, au fond, a manqué, au fond, de demeurer à l'intérieur des paramètres de la sagesse juive parce que sa morale est une morale en excès. J'ai essayé de montrer que, précisément, le propre de la sagesse de Jésus, c'est d'avancer avec une morale en excès. Là encore, sa réinterprétation de la loi, l'abolition de la loi du talion. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. L'interdit inconditionnel du divorce. L'interdit d'ajouter quoi que ce soit au oui ou au non. Enfin, toute cette réinterprétation de la loi qui figure entre Matthieu 5, 21 à 48, au fond, donne à la volonté de Dieu une force, et une force, au fond, extrêmement impressionnante et que j'appelle excessive, parce que jamais Jésus ne se prononce sur les conditions de faisabilité. Est-ce possible de... Cette question-là n'est jamais posée par Jésus. Et j'y vois là une singularité de Jésus de Nazareth. Sur ce point, Klausner avait raison. Mais Jésus veut par là restituer à la Torah la force originaire de la loi. La force originaire qui avance avec une urgence de l'amour, une urgence de la compassion et une urgence au fond de l'amour inclusif. C'est-à-dire l'amour qui refuse de discriminer parmi les bénéficiaires de la compassion du Dieu créateur. Et il y a effectivement une dimension non seulement forte, mais à la limite insupportable dans la manière qu'a Jésus de pousser la volonté de Dieu, le désir de Dieu sur l'humain, de telle manière que il n'est plus possible, au fond, d'adopter les positions de compromis. Le compromis n'a plus sa place. Et c'est cette sagesse propre, à mon avis, qui fait c'est cette sagesse forte et qui fait la particularité de Jésus.
Oui, sur le Jésus guérisseur charismatique auquel vous consacrez un long chapitre, un chapitre précis, on a envie de vous demander pourquoi accordez-vous autant d'importance au miracle de guérison de Jésus? Vous allez loin en évoquant même que Jésus prend sûrement conscience de l'identité du Père, de qui est ce Dieu bon à la faveur des miracles qu'il se voit accomplir. Dans le domaine des miracles, vous refusez le tout ou rien. Votre approche est très fine. Vous distinguez entre exorcisme, guérison, revivification des morts, prodiges naturels. Vous les recontextualisez de manière précise. Et vous avez aussi une approche très intéressante en montrant ce que les miracles de Jésus ne sont jamais Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Des miracles qui viseraient à nuire, ils n'en sont pas. Des miracles contre rétribution, des miracles d'exhibition de magie ou des miracles qui feraient pression sur le divin. Vous acceptez l'historicité des miracles de guérison et non celle des prodiges naturels comme la pêche miraculeuse ou Jésus marchant sur les eaux. Pour expliquer ces derniers, vous dites que les premiers chrétiens ont habillé leur Seigneur des capacités prodigieuses que la culture de leur temps attribuait aux êtres d'exception. Ainsi, ils pourraient parler de la pêche miraculeuse, vous parlez d'une rétrojection pascale dans la biographie de Jésus. Vous ne faites pas la même chose pour les miracles de guérison. Pourquoi tenez-vous à sauver les miracles de guérison?
Quand Ernest Renan, en 1863, a écrit son admirable vie de Jésus, oh voilà, tenez, une vie de Jésus qui a fait boum, beaucoup bien, qui avait boum, voilà, 1863. Et quand Ernest Renan écrit son admirable vie de Jésus, pour lui c'est extrêmement clair, parce que Renan appartient à l'ère du rationalisme triomphant, tout ce qui est d'ordre miraculeux ou surnaturel est le produit d'une fiction. Rêverie de femmes excitées. Je ferme la parenthèse. Bien. Donc, pour Renan, il est extrêmement clair que tout ce qui ne peut pas rationnellement se comprendre provient de l'imaginaire religieux. On sourit, évidemment. On sourit aujourd'hui à lire cela. Qui aujourd'hui, j'entends, à l'époque de la médecine scientifique la plus sophistiquée, douterait du pouvoir des chamans? Personne. Personne. Aujourd'hui. Je veux dire que nous avons, dans la sophistication scientifique la plus forte, aussi acquis le fait que des processus de guérison charismatiques, dont l'explication nous échappe le plus souvent, existent et ne sont pas à nier, plutôt à comprendre. Alors, donc aujourd'hui, dans la recherche du Jésus de l'histoire, s'il est une activité de Jésus dont plus personne ne doute historiquement, c'est précisément son activité thérapeutique. Donc vous voyez qu'en peu plus d'un siècle et demi, le point de vue des chercheurs sur Jésus historique s'est complètement inversé. Alors pourquoi est-ce que, effectivement, dans la description de l'activité de Jésus, je commence par le chapitre sur le guérisseur, vous avez bien mis le doigt là-dessus. Eh bien, parce que, de mon point de vue, l'activité de guérison et d'exorcisme de Jésus est absolument capitale pour comprendre son annonce, la proximité du règne de Dieu. Car en fait, dire que Jésus annonce le règne de Dieu proche, c'est une déclaration qui ne vous surprend pas. La question c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que Jésus a pu annoncer une nouvelle aussi subversive et bouleversante que ce règne de Dieu que tout le judaïsme de son temps attend pour le lointain, ce règne est proche? Est proche par l'activité de Jésus. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de le dire? Eh bien, c'est son activité thérapeutique. Lorsque il est interrogé par les disciples sur l'activité d'exorcisme, Jésus répond et est contesté par les pharisiens sur cette même activité d'exorcisme. Jésus répond, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Ça veut dire, si effectivement c'est le doigt de Dieu, le pouvoir de Dieu, qui me conduit à exorciser, alors ça veut dire que le règne de Dieu vient de vous atteindre. Mais qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? C'est la destruction du pouvoir du mal. C'est ça que tout le judaïsme attendait autant Jésus. La destruction du mal qui défigure l'humain, qui défigure le corps humain, qui humilie Israël, c'est la destruction du mal et la réhabilitation de la grandeur du peuple saint. C'est ça le règne de Dieu. La destruction de tout ce qui défigure l'humanité et ce qui dans le monde, conduit une stratégie de décréation. C'est ça. En chassant les démons, dit Jésus, le règne de Dieu vient de vous atteindre parce que la frontière du mal a été reculée. Car l'aliénation de l'homme, car le travail de la souffrance et de la maladie sur le corps de l'humain, c'est la concrétisation du pouvoir du mal. Alors, dit Jésus, en guérissant, je fais reculer l'envahissement et le territoire du mal. Et c'est ainsi que Jésus peut dire que le règne de Dieu est proche, oui, par son activité de guérison et d'exorcisme. À un autre moment, lorsqu'il envoie ses disciples en mission et qu'il leur dit non seulement d'annoncer le royaume, mais de guérir et de faire des exorcismes, et que les disciples reviennent en racontant la réussite de cette activité thérapeutique, Jésus dit « Je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair ». C'est une phrase codée qui dit « Satan perd son pouvoir ». Voilà, donc au fond, si j'ai mis l'accent sur cette activité thérapeutique, c'est qu'au fond, pour Jésus, Jésus n'a pas cherché à être simplement un bon thérapeute. Il y en avait d'autres. Il y avait de bons rabbis thérapeutes. C'est que pour Jésus, quand la maladie recule, quand l'aliénation recule, c'est le territoire du mal qui recule. Et que lorsque le territoire du mal recule, c'est l'espace du Dieu créateur qui vient de vous atteindre. Donc je pense qu'il y a dans l'expérience de Dieu qu'a fait Jésus et dans son annonce de la proximité du règne, une activité qui lui a permis d'expérimenter cette proximité du règne. Ce qui est très intéressant, on pourrait continuer assez loin. Le fait, au fond, que dans cette annonce de la proximité du règne, qui est la clé de compréhension de l'ensemble de l'activité de Jésus, elle se dit non pas par une parole, mais par un geste. Non pas par une déclaration verbale, mais par une action pragmatique. Je me dis que ce serait pas mal si la mission chrétienne s'inspirait de cela.
Alors, si on avance dans la troisième partie de votre livre qui s'intitule « Jésus après Jésus », vous en venez alors à la redoutable question de l'historicité de l'événement de la résurrection de Jésus en rappelant les soupçons dont il a très tôt fait l'objet, vous en avez parlé tout à l'heure, en posant la question « Est-ce que c'est un événement de l'histoire, le fruit d'une hallucination des disciples, une invention pieuse ?» Sa mort n'était qu'apparente. En fait, ce n'est qu'après l'examen attentif des sources néo-testamentaires, les récits d'apparition rapportés par les évangiles et la plus ancienne confession de foi de l'église de Jérusalem, qui est citée par Paul en 1 Corinthiens 15, à la lumière de la foi juive en la résurrection dont témoigne l'Ancien Testament, je vais y arriver, pardon.
C'est un sujet très éprouvant.
Ça n'est que là que vous justifiez la place de ce chapitre dans la partie Jésus après Jésus. Entre la mort et la résurrection, dites-vous, il y a bien un avant et un après. La foi de Pâques est une relecture théologique de la croix. Pâques marque bien le début d'un après Jésus. Mais il est faux de dire que cet après n'a rien à voir avec l'avant. En effet, Pâques n'apporte pas une révélation étrangère à ce que fut Jésus, mais dévoile au contraire ce qu'il était sans avoir été pleinement reconnu. Et donc, pour répondre à la question posée au début du chapitre, vous invitez à se garder d'un jugement à l'emporte-pièce et à tenir ensemble deux affirmations. Oui, l'événement de la résurrection échappe au champ d'analyse de l'historien. Ce qui touche à l'après-mort relève uniquement de la croyance. Les femmes au tombeau témoignent de leur expérience et non d'un savoir. Mais l'historien est mis devant deux faits incontestables. La fuite et la dispersion des disciples après la mort de Jésus et la recomposition du cercle des disciples attestée par les actes des apôtres. Aucune théorie psychologique, vol du cadavre, n'est objectivement vérifiable, pas même celle proposée par les évangélistes, celle que les croyants accueillent dans la foi, c'est-à-dire une expérience visionnaire par laquelle la transcendance a fait irruption dans l'histoire.
Oui, sur le tombeau vide, vous dites « la tradition du tombeau ouvert » vide, n'est ni le point de départ ni le présupposé de la foi en la résurrection de Jésus. C'est l'inverse qui est vrai. La foi résurrectionnelle a produit cette tradition seconde qui n'a jamais fonctionné comme preuve de la résurrection. En effet, l'absence du corps ne dit rien en elle-même. Elle doit être interprétée par le personnage angélique à partir de la foi résurrectionnelle. Comment expliquez-vous pourtant l'importance prise par ce thème du tombeau ouvert et vide dans la prédication, dans l'iconographie chrétienne, et finalement le fait qu'un autre théologien récemment, je pense au père Joseph Moin, qui a lui aussi évoqué cette question du tombeau vide dans Dieu qui vient à l'homme, et qui a suscité des réactions outrées, scandalisées, quand il a dit que quand bien même on aurait retrouvé le corps de Jésus, cela ne mettrait pas en question la résurrection. Comment expliquez-vous ce contraste ?
Ouh là là ! Mais vous avez raison de poser des questions fortes, hein ? Et nous y voici aussi, curieusement, aux deux extrémités de la vie de Jésus, hein ? Sa naissance et l'après-mort. Effectivement, d'abord, je n'ai pas voulu, quand bien même ma monographie est consacrée à l'histoire de Jésus de Nazareth, je n'ai pas voulu utiliser le subterfuge consistant à dire, ben voilà, Jésus est mort, donc ma mission s'arrête, la mission de l'historien se clôt à la mort de Jésus. Vous trouvez un certain nombre d'ouvrages consacrés à Jésus qui s'arrêtent à la mort. Je n'ai pas voulu utiliser ce subterfuge car il faut effectivement, à mon sens, se prononcer sur la foi en la résurrection. Au risque de simplifier, je dirais que sur la question de la résurrection, deux thèses antagonistes s'affrontent. La thèse de ceux et celles pour qui il n'y a pas de problème. Il faut lire les textes tels qu'ils sont, voilà, ce qui s'est passé à la résurrection, c'est ce que racontent les évangiles. Point. Et ceux qui disent, pas du tout, au fond, la fable de la résurrection est une invention pieuse, forgée par les disciples, après la décompensation psychologique qu'a représenté l'échec de leur maître. Et ils ont voulu surmonter l'échec de leur maître en inventant la fable d'une résurrection et donc d'une parole toujours vivante. Aujourd'hui encore, si vous lisez par exemple Michel Onfray, les choses sont claires. Voilà. Et je crois qu'effectivement elles ne le sont pas, qu'il faut vraiment s'interroger parce que il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à lire les textes. Non, parce que tous les évangiles, jusqu'au chapitre de la résurrection non compris, relatent une vie qui se déroule en public dans l'histoire humaine, dans le grand théâtre de l'histoire humaine. Une histoire vérifiable et qui a pour témoin des disciples ou des foules, que sais-je. En revanche, les récits de la résurrection ne concernent que les intimes de Jésus, un groupe de femmes, puis les disciples ensuite, et que l'aventure du corps de Jésus a de quoi surprendre, puisque ce corps se déplace, disparaît, traverse les murs, et qu'on a donc, je dirais, un ordre de réalité qui n'est plus du tout celui des chapitres précédents. Quand un évangéliste nous parle d'un corps qui, tout d'un coup, a un statut qui n'est plus celui qu'il avait auparavant, encore une fois, qui apparaît, qui disparaît, qui traverse les murs, on voit bien qu'il émet un signal à l'intention des lecteurs. Je parle d'un autre ordre de réalité. Est-ce que j'ose, pardonnez-moi la trivialité de la comparaison, Mais si je vous raconte une histoire, un conte, et que tout d'un coup je fais intervenir une fée, c'est un code entre nous. Je passe sur le registre conte de fées, où tout d'un coup tout devient possible, et où des animaux fantastiques peuvent rencontrer des humains. C'est le code conte de fées, avec une licence accordée au narrateur de déployer son imaginaire. Et vous savez que vous allez enclencher à la lecture un code qui n'est plus celui que vous enclenchez lorsque vous lisez un article de votre journal préféré. Il y a des codes de communication et les récits de résurrection empruntent un code de communication. La question c'est, est-ce qu'on peut historiquement reconstituer l'événement de la résurrection? Alors, historiquement, il y a quelque chose d'extrêmement clair. Odile Flichy l'a rappelé tout à l'heure, c'est que la mort de Jésus a dispersé les disciples, les a laissés effrayés, désespérés, et qu'après la résurrection, ils se regroupent, et le livre des Actes des Apôtres montre que très vite, le groupe des 11 disciples, 12 moins Judas, se reconstitue et se retrouve pour la prière. Il y a donc dans un espace de temps relativement bref, une inversion totale de leur rapport à la mort de Jésus. Qu'est-ce qui explique ce retournement? Ce qui explique ce retournement, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour les uns, c'est fiction religieuse, pour les autres, il s'agit d'un processus d'hallucination collective. La lecture que je propose, je dis bien celle que je propose. Vous savez qu'en histoire de l'Antiquité, les certitudes sont rarissimes. Tous les historiens de l'Antiquité, qu'ils vous parlent de Néron ou de Jules César, ne feront que vous proposer des hypothèses. Des hypothèses qu'on leur demandera, c'est le rôle auquel ils sont assignés, de vérifier dans les textes, dans la documentation. Mais ce sont des hypothèses qu'ils avancent. L'hypothèse que j'avance, c'est la suivante. Ma lecture des textes me fait comprendre que, au centre de tous les récits des résurrections, un verbe revient constamment et jusqu'à saturation, c'est le verbe « voir ». Nous avons vu les disciples. Les femmes disent qu'elles ont vu le Seigneur, etc. C'est le verbe « voir ». Je crois que ça vient de ma droite. Mais...
Désolé.
Ce verbe « voir » est donc un verbe capital. Et lorsque Paul, dans la plus ancienne formule de credo qui nous soit parvenue, en 1 Corinthiens 15, résume la foi de l'Église, il dit « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité ». Il est apparu, traduit la tobe, c'est en fait, il a été vu par Céphas, puis aux 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, la plupart sont encore vivants. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, il a été vu par moi aussi l'avortant. Paul utilise à l'envi le verbe voir. Et donc, à mes yeux, cela signifie que la foi de la résurrection s'adosse à des expériences de vision, des expériences visionnaires. Ils ont vu. Des expériences visionnaires, comme il en existe d'ailleurs dans toute religion, aujourd'hui encore, hein, mais une expérience visionnaire par lesquelles il est apparu aux intimes de Jésus que celui que les hommes avaient mis à terre, Dieu l'a relevé. C'est ça le sens de résurrection, hein? Relever. Que Dieu a relevé, que Dieu a réhabilité ceux que les hommes ont mis à terre. Que Dieu donne raison, non pas au bourreau, mais à la victime. C'est ça l'objet d'expérience visionnaire. Et quand je dis expérience visionnaire, ça veut dire que j'envisage tout à fait, pour ma part, j'envisage tout à fait que ces expériences visionnaires ne sont pas le produit du cerveau enflammé des intimes de Jésus. L'historien ne peut pas se prononcer. J'entends par là qu'effectivement, dans une expérience visionnaire, en tant que théologien, c'est une vision dont l'origine se trouve en Dieu. Là, je parle en théologien. Mais si je reviens au niveau de l'histoire, je ne doute pas, je ne crois pas qu'on puisse douter de la multiplication des expériences visionnaires. J'en veux pour preuve ce qui est parfois considéré, à mon avis à tort, comme la preuve du caractère fictif de ces expériences. C'est qu'alors que les évangiles, les quatre évangiles, sont presque unanimes pour raconter le scénario de la passion, ils divergent totalement pour ce qui concerne les récits de résurrection. Les récits d'apparition du Christ ressuscité, les expériences de vision sont extrêmement différentes. Marie de Magdala prend un rôle central chez Jean, de même Thomas celui qui doute, tandis que il s'agit plutôt chez Luc de Cléopas et de son compagnon sur le chemin d'Emmaüs. Donc nous avons des récits extrêmement différents et que cette différence-là, à mes yeux, est un argument en faveur des expériences visionnaires, parce que l'expérience visionnaire est rattachée à l'intériorité de la personne. Il n'y a pas, mais aujourd'hui encore, deux expériences visionnaires semblables entre deux individus. Voilà, donc, en tant qu'historien, j'estime que on ne peut pas douter, il n'y a pas de raison de douter de l'historicité des expériences visionnaire, et qu'elles expliquent cette efflorescence de témoignages divers, mais qui concourent les uns et les autres à rassembler une communauté qui était en train de se disperser totalement. Maintenant, vous m'interrogez sur la tradition du tombeau ouvert. Oui, je préfère dire le tombeau ouvert parce que ce qui se trouve en point de mire, c'est pas tellement qu'il est vide, mais que la pierre a été roulée. Que la pierre a été roulée, la pierre c'est ce qui symboliquement scelle la mort, scelle le plus jamais, scelle la séparation entre la vie et la mort. Or, cette pierre a été roulée. Rappelez-vous, mais je ne cesse de le dire à mes étudiants en tant que exégète, il n'y a pas dans les textes bibliques d'éléments anecdotiques. Tout fait sens. Tout fait sens. Et si les récits des femmes au tombeau, si les récits de la venue des femmes au tombeau se heurtent à la pierre et qu'on insiste sur cette pierre en se demandant si on pourra la rouler et qu'on constate qu'elle a été roulée, c'est que cette frontière entre la vie et la mort a été déplacée. Et qu'effectivement, l'espace de la mort s'est réouvert à la vie. Alors, si je dis que cette tradition est seconde, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que ni l'évangile de Marc, ni l'apôtre Paul, les plus anciens témoins de la tradition résurrectionnelle, n'en parlent. Paul ne parle pas de cela. L'évangile de Marc va parler de la tradition du tombeau ouvert, mais Paul n'en parle pas. Pourquoi est-ce que Paul n'en parle pas alors qu'il aurait pu la mettre en avant? C'est peut-être effectivement que cette tradition n'était pas à ce point présente ou établie au temps de Paul, c'est-à-dire dans les années 40-50. Marc va en faire état, et puis les autres évangiles vont déployer les récits de vision du ressuscité. Mais au fond, je pense que la tradition du tombeau ouvert vise en fait symboliquement à incarner, à concrétiser, à valider l'action de Dieu sur Jésus. Je veux dire par là, ce qui est fondamental dans la foi de Pâques et dans la foi résurrectionnelle, ce qui est fondamental, c'est que celui dont les humains ont voulu l'élimination, qu'ils ont condamné pour blasphème, pour avoir mal parlé de Dieu, celui-ci, Dieu l'a réhabilité. À partir de là, la foi pascale peut se décliner en plusieurs traditions. Et je crois simplement que la tradition du tombeau ouvert n'est pas la première, elle n'est peut-être pas essentielle. En tant qu'historien, j'en reste là. Je veux dire que je n'ai pas la prétention de dire qu'il s'agit là d'une fiction religieuse totale. Je n'en ai pas les moyens et personne n'a les moyens d'affirmer ni cela ni l'inverse. Je suis frappé du caractère vraisemblablement tardif de cette tradition. Il y a un autre élément d'ordre factuel dans le texte qui m'alerte, c'est que la tradition des femmes se rendant au tombeau n'a pas beaucoup de consistance historique. Je veux dire, dans le judaïsme ancien, les devoirs funéraires peuvent être accomplis à n'importe quel moment et suspendre toute autre prescription de la Torah, y compris la prescription sabbatique. Donc, si Jésus a été enseveli un jour de sabbat, rien n'interdit de procéder au rite funéraire. Rien. Qui, dans un proche Orient ancien dont on connaît la température, imaginerait pouvoir embaumer un corps 3 jours après? Et comment les femmes peuvent-elles imaginer rouler une pierre devant un tombeau? Il y a donc un certain nombre d'illogismes dans leur démarche. Et encore une fois, lorsque le récit tend à l'illogisme, comme ce corps qui traverse les murs, ou bien on conclut d'une manière triviale à la fiction, ou bien on entre dans le code de lecture en se disant que cet illogisme nous renvoie à une dimension symbolique. Et la dimension symbolique, c'est certainement que les femmes viennent s'incliner devant la mort. Car embaumer un corps, c'est s'incliner devant la mort. C'est reconnaître la toute-puissance de la mort. Or, le message qu'elles reçoivent, c'est qu'il y a plus puissant que la mort. Et que la frontière entre la vie et la mort a été déplacée. Il y a une ouverture à la mort. C'est ça qu'elles entendent. Mais à mon sens, les avoir décrits de cette manière-là, dans ce pèlerinage vers le tombeau ouvert, est une manière, une lecture symbolique du rapport à la mort et du travail de deuil qui nous est offerte par les évangélistes.
Oui, juste un mot de conclusion pour laisser le temps. C'est juste, on va tout de suite à la conclusion, qui se termine donc par ces 2 chapitres sur la réception de la figure de Jésus dans le judaïsme. Donc, à la fin, vous livrez 2 convictions. Que reste-t-il du Nazaréen au prisme de 3 religions ? 1. Jésus est le bien commun des 3 monothéismes. Partager cette figure est la voie royale offerte au dialogue interreligieux. 2. La vérité de Jésus ne peut pas être cadenassée en une formule. Revenir au Jésus de l'histoire demeure une tâche permanente. Et le mot du dernier mot, c'est le dernier mot du livre. C'est une exclamation, inclassable Jésus. Alors, je ne sais pas, on n'a pas le temps de... Ce sera une question pour la salle, si vous voulez savoir si Jésus est vraiment inclassable.
L'expérience visionnaire de la résurrection est la condition de possibilité d'une espérance de la résurrection à la fin des temps. C'est la condition de possibilité parce qu'au fond, c'est l'annonce que Dieu intervient dans la vie de Jésus et après la mort de Jésus. Le réhabilite, et que cette réhabilitation de Jésus auprès de Dieu est l'itinéraire, le scénario de la vie de tout croyant. Dans la formule qui est bien entendu post-pascale, Jésus premier-né d'entre les morts, cette formule indique bien de quelle manière les premiers chrétiens ont compris la résurrection de Jésus comme le prémisse, l'annonce de ce qui se déroulera au terme de l'histoire humaine. Le prémisse, non pas dans les modalités, puisque nous ne connaissons pas les modalités de la résurrection, enfin les temps. Personne n'est revenu de l'après-mort pour nous le dire, mais j'entends, on a effectivement là l'affirmation que ce que Dieu a opéré sur la destinée de Jésus, il l'opéra sur la destinée de ceux qui, à l'image de Jésus, et par lui, deviennent fils et filles de Dieu. Parce que l'idée des lecteurs et des lectrices m'ont dit avoir été surpris, sinon choqués, par l'idée que Jésus ait eu un mentor spirituel. Et moi, j'essaie de répondre que, ou bien on croit en l'humanité de Jésus, ou bien on le pense comme un zombie. Mais si on croit en l'humanité de Jésus, ben un humain doit apprendre. Il apprend à marcher, il apprend à prier, il apprend à aller au pèlerinage, à faire les pèlerinages à Jérusalem, il apprend à lire l'écriture sainte, comme l'a écrit Jésus, et tout ceci est le fruit de l'éducation qu'il a reçue de parents qui avaient une forte ambition pour lui. Donc effectivement, il a eu non seulement des mentors scolaires, mais mentors spirituels, oui. Alors, quand je dis que la rencontre avec le baptiseur et le baptême ont été décisifs dans l'orientation du destin de Jésus, moi je lis les évangiles. Que racontent les évangiles? À quel moment Jésus entend-il la révélation de sa filialité divine? Mais il n'y en a qu'un, un seul, c'est le baptême. Hein? Les cieux qui s'ouvrent et la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est le moment où, baptisé par le baptiseur, Jésus entend la révélation de sa filialité divine. Alors, si les évangélistes avaient voulu nous dire, non, mais ça, c'est du passé, ben, il y a longtemps qu'ils le savent, ils auraient trouvé moyen de nous le faire savoir. Alors, simplement, c'est une rencontre qui fut l'occasion de cette découverte. Ça ne veut pas dire que Jean le baptiseur les murmurait à l'oreille de Jésus. C'est pas ça. C'est que le baptême de Jean le baptiseur a été la médiation par laquelle Jésus est parvenu à la configuration de son identité. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour dire encore les choses de manière plus précise, Jean le baptiseur n'est pas le fabricant du destin de Jésus, mais il fut ce personnage indispensable par qui Jésus est parvenu à la découverte de son identité. Si je peux me permettre une comparaison, dont j'espère que vous ne la trouverez pas un peu simple, mais il nous arrive certainement qu'au cours de notre formation, on puisse dire, c'est grâce à ce professeur que j'ai compris que j'étais doué pour la musique. C'est pas le professeur qui a fabriqué ça. Mais cette rencontre a été indispensable pour que je m'ouvre à cette découverte de mon identité. Mais c'est la même chose avec Jean le baptiseur. Encore une fois, l'humain est celui qui, dans la vie et dans les rencontres, peu à peu avance et construit son identité. Et la rencontre avec Jean le baptiseur a été un élément décisif dans la saisie ou dans le parcours identitaire de Jésus. Alors, là, vous posez une autre question, et c'est un autre blanc du récit pour reprendre une formule, une jolie formule arrivée tout à l'heure. Que s'est-il passé entre la naissance et le baptême de Jésus? C'est un blanc des évangiles. Les évangiles apocryphes ont tenté de combler ce blanc en nous racontant soit l'histoire du gamin merveilleux, soit celui du sale gamin. Hein, qui fait des mauvaises farces à ses copains. Hein, voilà. Ils ont tenté de combler ce blanc. Les évangiles n'en disent rien de ce blanc. Mais ils ne disent pas non plus comment Jésus a été élevé. Alors, Comment il a été élevé, on peut s'en rendre compte aux effets, encore une fois. Jésus prie dans les synagogues. Jésus sait prêcher quand on lui offre la possibilité. Jésus lit les Écritures, rarissime dans le peuple juif. Donc, on peut se rendre compte de plusieurs effets. Il se trouve que la seule chose que nous livrent les évangélistes, et peut-être la seule chose qu'ils savaient, c'est que ce fut là le moment d'une prise de conscience décisive de son identité. Comment cela se préparait-il? On ne sait pas. On ne sait pas. Et je laisse là-dessus l'énigme telle que nous la laissent les évangélistes. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que on ne se présente pas au baptême du baptiseur comme on se présente aujourd'hui au baptême dans une église. Aujourd'hui, on va voir le prêtre ou le pasteur de sa communauté qui procède à la célébration du baptême et on pourrait éventuellement se quitter sans plus jamais se revoir. Jean le baptiseur conduit une prédication de conversion. On se convertit au message du baptiseur. On se convertit. Jésus s'est converti au message du baptiseur et a reçu du coup du baptiseur son baptême. Et cette conversion est allée si loin que Jésus a fait partie du cercle de ses disciples rapprochés. Donc il y a eu un retournement dans la vie spirituelle de Jésus. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, moi, je pense que la dimension historique, l'actualité du regard que Jésus pose sur l'humanité, sur une société inclusive, tout ceci pourrait les intéresser. Le fait effectivement que ce soit une enquête de type historique qui laisse libre le lecteur, la lectrice de conclure à sa manière. Il est vrai que mon livre est actuellement lu par de très nombreux groupes de lecteurs et de lectrices en paroisse ou hors paroisse et qui après chaque chapitre dialoguent sur mon argumentation et qui parfois justement me demande de venir au terme du parcours. Donc moi j'ai l'impression que tenter de plaider l'approche historique devrait pouvoir les intéresser. J'ajoute juste que j'avais dans le temps écrit un petit livre qui s'appelait L'homme qui venait de Nazareth, qui est un petit résumé comme ça, un livre beaucoup plus bref, mais qui se lit aussi plus facilement. Et que qui a été réédité plusieurs fois et que je vais faire rééditer à l'automne 2020. Alors c'est vrai que c'est une approche plus rapide que ce livre qui comporte un certain nombre de pages. Mais tenter de faire passer l'approche, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi je dirais non catéchétique, mais plutôt historique et intéressé à l'humanité de Jésus. Oui, l'adoptionnisme systématise une donnée en affirmant que Dieu aurait, par exemple au baptême, c'est une des formules, adopté l'homme Jésus, n'est-ce pas? Les évangiles se portant faux en disant par la foi en la naissance virginale, cet homme vient de Dieu dès la naissance, il vient de Dieu. Ne demandez pas pourquoi, puisque l'affirmation de la naissance virginale n'est pas une affirmation gynécologique, mais théologique. On est d'accord là-dessus, hein? Bon, on est d'accord. Donc, je veux dire, il vient de Dieu. Et là encore, ça ne nous livre aucune modalité. Nous n'avons pas à matérialiser les affirmations théologiques. Et donc, contre l'idée que Jésus aurait été l'être de rencontre, l'être de rencontre fortuite que Jésus aurait adopté, non. Les évangiles de l'enfance ne disent pas cela. Et dire qu'une rencontre permet la prise de conscience et la saisie de son identité ne veut pas dire que, en amont dans l'histoire de cette personne, rien ne s'est passé ni produit. C'est pas ça que ça veut dire. Mais je crois que notre vie, à nous aussi, elle est faite de moments révélateurs, où tout d'un coup se cristallise. Alors, chaque époque interroge Jésus à partir de ses catégories et de sa culture, vous avez entièrement raison. Le critère, à mon sens, le critère c'est celui-ci. Est-ce que l'étude conduite sur le Jésus de l'histoire prend en compte la totalité des éléments que nous livre la documentation? Je pense que autant j'admire la vie de Jésus d'Ernest Renan, autant je considère que l'élimination de tout ce qui est surnaturel fausse l'examen des sources. J'essaie de prendre en compte la totalité des sources qui sont... C'est ce que dit l'évangile de Marc, c'est pas moi, hein? Non, c'est l'évangile de Marc qui dit ça. On a là une lecture théologique de la mère de Jésus et du disciple. Vu l'heure, je vous renvoie peut-être à mon livre, si, et pardonnez-moi, hein, cette sortie rapide, mais effectivement, il y a tout le chapitre que je consacre à la question des frères et sœurs de Jésus. Vous en trouvez d'ailleurs l'équivalent, à peu près, en tout cas dans les conclusions sont identiques, dans l'ouvrage monumental de John P. Meyer, Jésus, un juif marginal, qui parvient aux mêmes conclusions. Je me permets de renvoyer, excusez-moi. Mais ces deux questions sont lourdes l'une et l'autre et pour des raisons différentes. La première est lourde théologiquement et celle que vous posez est extraordinairement complexe, la question du Fils de l'homme. Alors, je me permets peut-être l'impertinence de répondre de manière un petit peu brève. Vu l'heure, moi, vous savez, l'idée que Dieu se servent des médiations humaines ne me gêne pas. Parce qu'il fut un temps où Dieu se promenait dans le jardin d'Éden. Il rencontrait Adam et Ève. Et puis à la fin du livre des origines, de Genèse 1 à 11, Dieu n'intervient jamais que par des médiations humaines. Comment est-ce que Moïse prend conscience de sa vocation par un buisson qui brûle et ne se consume pas? C'est assez bizarre, hein, comme médiation. Je veux dire, le fait que des médiations, le fait que ce soit par des médiations, vous voyez, que l'on parvienne à la découverte de son identité devant Dieu, moi, me paraît au fond assez biblique. Elle me paraît assez biblique. Et dans la mesure où je considère que Dieu s'incarne dans une humanité totale, celle de Jésus, alors l'homme Jésus, comme s'il est homme, doit s'éveiller peu à peu à son identité. Il doit s'éveiller à son identité. Il ne l'acquiert pas comme ça. Il n'y a que le zombie qui naît avec toute la science. D'accord ? Et donc, le fait que des rencontres aient pu être décisives dans la manière dont Jésus a pu se situer devant Dieu, ne me paraît, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, ne me paraît en aucune manière limiter l'autorité ou la transcendance divine. Parce que je constate que, entre nous, ça fonctionne comme ça. Et que la conscience de notre filialité divine, parce que nous sommes tous à la manière de Jésus, appelé à découvrir un Dieu Père, d'une manière non pas unique comme Jésus, mais à notre façon de découvrir un Dieu Père, ça nous est transmis par des médiations humaines aussi. Enfin voilà, mais vous savez, c'est au fond la proposition que je fais, et si c'est éclairant pour vous, et si ça vous fait avancer dans votre saisie de l'humanité de Jésus, Fils de Dieu, c'est bien. Puis si ça ne vous fait pas avancer, vous oubliez. Vous voyez ? La question Fils de l'homme. Oh là là, comment répondre rapidement à une question si complexe ? Là encore, j'ai de nombreuses pages dans mon livre qui sont attribuées à cette question-là. Globalement, s'il est un titre dont Jésus s'est rapproché, c'est le titre de Fils de l'homme. Jésus ne s'est jamais déclaré Messie. Jésus ne s'est jamais déclaré fils de Dieu, ce sont ses disciples qui ont reconnu la vérité de ce qu'il était après Pâques et qui ont dit il est le fils de Dieu, mais jamais Jésus ne le déclare de lui-même. Et effectivement, Jésus s'est rapproché de cette figure mystérieuse de la fin des temps, émissaire divin de la fin des temps, qui est le Fils de l'homme. Ce que Jésus a annoncé de manière extrêmement forte, c'est cette corrélation entre l'attitude que l'on a face à lui et face à ses paroles, et l'attitude que le Fils de l'homme aura lors du jugement. Au fond, Jésus a été convaincu que le Fils de l'homme, cet émissaire divin, validerait ses paroles et sa personne. C'est ça, au fond, le plus fortement. Et il se trouve que la tradition chrétienne a progressivement identifié Jésus et le Fils de l'homme, à tel point d'ailleurs que, à plusieurs reprises, lorsque l'évangile de Marc dit « le Fils de l'homme », l'évangéliste Matthieu réécrit « je ». Donc, la tradition chrétienne, par cette réécriture, a traduit cette conviction qu'elle avait que Jésus serait ce Fils de l'homme, que Jésus serait le juge du monde. Mais lui-même, au fond, ne l'a pas mis en avant de manière immédiate. Ce que je crois, c'est que lorsque la communauté chrétienne le fait, et la raison en vérité, mais parce que Jésus a beaucoup moins dit qui il était, il a fait qui il était. Il a fait qui il était. Et dire qui il était, c'est le rôle du témoin. Vous voyez? Jésus n'a pas fait réciter un catéchisme. Répétez après moi, je suis le Fils de Dieu. Pas ça, hein? Mais Jésus a fait qui il était. Et il n'est pas étonnant que ce soit après Pâques que les disciples aient pu dès lors dire qui il était comme une réponse croyante saisissant ce qu'il fut.
Un très grand merci. Voilà, vous avez... C'était une belle introduction au temps de Noël qui arrive. Vous pouvez, à ce propos, acheter et offrir des livres de Daniel Margera, donc qui sont en vente à la sortie. Merci à Élodie Moreau aussi et à Odile Fichy. Bonne soirée à tous et bon temps de l'Avent. Bonne fête de Noël. Merci.